avoir suivi.
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Appelez-moi Luce, s'il vous plaît, pas de Madame Vigo. En toute simplicité, voilà comment apparaît et se présente Luce Vigo. La fille du réalisateur Jean Vigo, née en 1905 et décédée en 1934, à qui l'on doit seulement 4 films, dont le pamphlet contre l'autorité et l'ordre, Zéro de conduite, était présente à l'école d'été de cinéma d'Uherské Hradiště qui s'est achevée ce dimanche. Avec Luce Vigo, nous avons notamment évoqué son père, fils d'anarchiste, dont l'œuvre éclair et originale a suscité la création d'un prix, le prix Jean Vigo, dont elle préside le jury. On écoute tout de suite Luce Vigo.
Il y a un jury, donc on est toute une équipe à choisir les films. Et on se dispute pas mal. Mais le prix existe depuis 1951. Et au début, je n'étais pas majeure. Donc, je faisais pas partie du prix, mais je regardais les films. Et peu à peu, je me suis investie. C'est un peu un devoir de mémoire et aussi une façon, surtout aujourd'hui, d'essayer de défendre le cinéma indépendant. Parce que Jean Vigo était un cinéaste qui est mort jeune, mais qui s'est battu pour beaucoup de choses, fils d'un anarchiste, donc ça n'étonne pas. Et voilà, donc c'est à la fois, je vous dis, un devoir de mémoire et une bataille pour le cinéma indépendant.
Le fait que vous repreniez un peu cette bataille, comme vous dites, ça m'a fait penser un peu à la bataille aussi que votre père a menée aussi pour blanchir le nom de son propre père, en fait. Si vous pouviez un tout petit peu rappeler aussi l'histoire de votre père, qui est quand même assez extraordinaire.
Je vous félicite parce que je vois que vous êtes bien au courant. Donc mon grand-père s'appelait Vigo, mais il avait pris un nom de guerre, d'anarchiste, qui était Miguel Almereida, qui est l'anagramme de « c'est la merde ». Donc c'est déjà tout un programme et un regard sur la société. Bon, il a fait beaucoup de prison, vraiment jeune, régulièrement, pour ses positions politiques. Il dirigeait à la fin de sa vie un journal appelé Le Bonnet Rouge. Et il a été arrêté en 1917 parce qu'il avait pris des positions pacifistes et on l'a accusé de traître à la patrie. Voilà. Donc, il a été arrêté et on l'a trouvé mort, étranglé par un lacet de chaussures dans sa cellule. On pense qu'il a été assassiné pour des raisons politiques.
Jean Vigo avait 12 ans, donc à la mort de son propre père, dans des circonstances plus ou moins troubles.
Très troubles. Il y a eu des articles, un procès du Bonnet Rouge, des articles infamants. Et Jean Vigo était allé tout petit. Il connaissait très bien les prisons où il allait voir son père. Et à 12 ans, il était souffrant, mais... Il a voulu, au fil des années, essayer de réhabiliter la mémoire de son père. Il a accumulé, j'ai un gros dossier d'articles où il essayait de rassembler le plus de preuves possibles. Et puis, peu à peu, les amis de son père lui a dit « Bon, laisse tomber, ce n'est pas la peine parce que ça fera un scandale et c'est tout. » Donc, à mon avis... C'est par le cinéma qu'il s'est exprimé. C'est une façon de retrouver l'esprit de son père qu'il s'est exprimé à travers les films.
Avec une forme d'engagement clair dans ses films.
Avec une forme d'engagement clair dans ses films, avec une attitude très anarchiste, un point de vue sur la société. Il faut quand même penser qu'il était jeune parce qu'il a filmé de 25 ans à 29 ans, donc très très court. Presque même pas 5 ans de parce qu'il était malade toujours. Et ce que je voudrais dire, c'est que Jean Vigo n'était pas seul. Et pour moi, ça rejoint l'atmosphère dans laquelle il a vécu dans sa petite enfance, c'est-à-dire que les anarchistes, ils étaient toujours ensemble à discuter, aller dans les bistrots, etc. Et le petit Vigo, il était emmené partout. Donc lui, il a eu la chance de rencontrer Boris Kaufmann, qui est un grand chef opérateur, le frère de Dziga Vertov, puis Maurice Jobert, le musicien, puis peu à peu une équipe. Et vraiment, c'était une équipe très différente, avec d'origine différente, mais une espèce de... C'était des grands enfants en même temps, et en même temps qui avaient le même regard sur le monde et le même amour de cinéma.
Est-ce que vous vous souvenez du premier film de votre père que vous avez vu et de l'impression que ça vous a fait ?
Alors là, c'est un petit peu compliqué, parce que ça vous étonnera, mais la première fois que j'ai vu les quatre films en même temps, j'avais déjà 14 ans. Parce que quand, petite, j'étais à la montagne pour des raisons de santé, comme mes parents. Ma mère est morte en 1939. Après, il y a eu la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'ai pas vu les films de mon père. La famille qui m'élevait était tout de suite dans la résistance. Donc, ce n'est que fin 45, début 46 que j'ai vu les quatre films de mon père pour la première fois. Zéro de conduite avait été interdit par la censure. C'était la première fois qu'on pouvait le montrer en France. Et j'ai pas de souvenir. C'était un héritage trop fort et je ne vois rien sur l'écran. Et en même temps, j'étais entourée de plein de gens qui venaient m'embrasser, etc., qui m'avaient connue petite, mais que je ne connaissais pas. Donc, il m'a fallu des années pour accepter l'héritage.
En effet, vous l'avez accepté, puisque visiblement, vous êtes tournée vers le cinéma, vous êtes devenue critique de cinéma et journaliste, en fait, de cinéma.
Oui, j'ai mis longtemps à travailler dans le cinéma. J'ai commencé par animer un ciné-club en 1960, puis après j'étais responsable de programmation dans une maison de la culture, et voilà, et en même temps j'ai fait de la critique de cinéma, encore que je préfère les entretiens, faire des entretiens avec les auteurs, que de faire la critique des films. Je préfère leurs paroles, leur regard sur leur propre œuvre.
Plutôt que d'analyser et de décortiquer vous-même un film.
Je le fais aussi, mais jamais pour démolir un film. C'est-à-dire que je ne parle que des films que j'ai envie de défendre et qui ne sont pas forcément défendus par tout le monde.
D'où d'ailleurs peut-être aussi le prix Jean Vigo, on y revient quand même, qui récompense, ou disons, c'est plutôt un encouragement, l'impression que j'ai pour ce prix. C'est-à-dire que c'est des films qui révèle quelque chose d'un réalisateur, même si pour l'instant il n'est pas du tout confirmé ou il a fait très peu de films. Quel est le principe exactement ?
Oui, c'est un problème d'esprit, je crois. On attend de ce réalisateur, même si son film n'est pas parfait, pas forcément une première œuvre, court et long métrage maintenant. On doit sentir que c'est un pari. On doit sentir que plus tard, il fera du cinéma. Quelquefois, il y en a qui n'ont pas continué dans le cinéma. Mais quand on voit qu'on a donné le prix Jean Vigo à Jean-Luc Godard, c'était son premier long métrage. Et j'avoue que là, on ne s'est pas trompé, parce qu'il a continué tout en restant fidèle à son indépendance. C'est un homme de notre temps qui s'est adapté aux nouvelles techniques, etc. Donc c'est un pari et en général, on ne s'est pas trompé.
C'est le film À bout de souffle, c'est cela.
C'est le film À bout de souffle.
C'est peut-être l'influence des saisons.
Mais il faut dire au revoir aux petits hommes.
J'avais besoin de lui. Est-ce qu'il viendrait vers moi? Est-ce qu'il viendrait vers moi?
Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce film La France, oui. qui est donc le prix Jean Vigo 2007. Oui. Je me souviens que lors de la présentation, vous avez parlé justement de ce film, que ce film était d'autant plus proche pour vous qu'il se passait en 1917, que c'était lié à votre famille. Bon, j'ai tout de suite pensé, en fait, je me suis dit, c'est incroyable, j'ai pensé voilà, à votre grand-père. Quels ont été les critères de choix, disons, pour ce film? Parce que je suppose qu'il y en avait plusieurs en compétition, pour le coup. Oui.
Alors, ce jeune réalisateur, Serge Bozon, avait fait un premier film que je trouve assez snob, qui s'appelle Mods, que je n'aimais pas du tout. Et j'ai découvert, en voyant La France, un film où il s'était ouvert au cinéma. J'étais un peu sévère dans la présentation, parce que, en le revoyant pour la troisième ou quatrième fois, je me suis rendu compte que ce film, d'abord, était le critère, c'est quand même... vraiment du cinéma, c'est vraiment un auteur de cinéma. Et en même temps, il y a vraiment un point de vue quand même antimilitariste et une histoire, cette belle histoire de cette femme qui se trouve au milieu d'un groupe d'hommes et qui se fait passer pour un garçon pour essayer de trouver son mari.
C'est vrai que Sylvie Testu, qui joue donc le rôle de cette jeune femme, Camille, est particulièrement émouvante et authentique. Oui, vraiment, elle crève l'écran, enfin, c'est assez impressionnant, disons.
On n'apprend pas tout de suite qu'ils sont des déserteurs, d'ailleurs. Il a vraiment dosé son histoire, elle avance comme ça peu à peu, et elle surprend cette histoire, parce qu'avec ses musiciens, ses instruments de musique faits de briques et de brocs, c'est assez étonnant. Mais je pense qu'il continuera à faire du cinéma et à ne pas s'enfermer comme au début, dans une espèce de clan un peu pas snob. Je voudrais trouver un autre mot, mais je ne le trouve pas. Vous débrouillerez.